Bonsoir à toutes et à tous et bonne année, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Kiran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Pierre Mine. À tous ceux qui aujourd'hui sont en manque d'inspiration pour les bonnes résolutions, Le Grain à Moudre vous soumet une idée. Cette année, n'arrêtez pas la cigarette, ne vous mettez pas au sport, mais prenez enfin soin de votre capital culturel plutôt que de votre capital santé. 2015, visitez au moins un musée par mois. Ça tombe bien, l'offre de musées s'est encore enrichie récemment. Musée Picasso en octobre à Paris, Musée des Confluences qui présente les collections de l'ancien Muséum d'Histoire Naturelle à Lyon depuis le 20 décembre dernier, sans oublier le récent MUCEM à Marseille. Vous avez peur de vous ennuyer ? Détrompez-vous, les musées sont de moins en moins ces lieux morts et poussiéreux qui habitent encore votre imaginaire. Décors vivants, animations, sons et lumières, chasse au trésor, jeux de rôle. Tout en exposant les collections, les musées innovent et proposent aussi de se divertir. Mais se divertir jusqu'où ? Jusqu'à ne plus voir l'œuvre et seulement son emballage ? C'est le risque que pointent certains dans cette course à l'attractivité. Pourtant, c'est bien le rôle du musée que de faire accéder un public aussi large que possible à son patrimoine artistique, scientifique ou architectural. Alors, pourquoi ne pas utiliser les outils à disposition, quitte à emprunter au théâtre, au numérique, voire au parc d'attractions ? Les musées doivent-ils être amusants ? C'est notre sujet du jour. Et ils sont trois invités pour en discuter ce soir. Serge Chaumier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue de la culture, vous êtes responsable du master expographie-muséographie à l'université d'Artois. Mmh. Vous avez notamment coordonné le numéro 5 de la revue Culture et Musée du musée au parc d'attractions, c'était en 2005. Et à vos côtés, Juliette Giraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice de l'événement Muséomix, que je vais essayer de résumer en quelques lignes. Muséomix, c'est une sorte de marathon créatif, donc destiné à renouveler les formes de médiation dans les musées. Il se déroule chaque année sous la forme d'une rencontre à l'intérieur des musées, réunissant une centaine de participants, les Muséomixeurs, qui disposent de 3 jours et 2 nuits pour mettre en place des dispositifs de médiation innovants. Vous nous citez quelques noms de musées qui ont participé à la dernière édition qui a eu lieu récemment, en novembre 2014.
Le musée d'art antique, le musée Muséum à Lille, le muséum de Nantes, le musée art et industrie de Saint-Étienne, le musée d'histoire de Genève, le musée des beaux-arts de Montréal, et j'en oublie un, et le musée de Derby en Angleterre.
Un événement international donc. Et peut-être l'édition 2015 verra-t-elle la participation du musée Picasso ? Tommaso Benelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du département de la médiation au sein de la direction des publics et du développement culturel du musée donc Picasso, musée qui a réouvert tout récemment le 25 octobre, c'est ça ?
Tout à fait.
Et justement, vous avez, paraît-il, déjà dépassé les 100 000 visiteurs.
Je peux le confirmer, oui.
Est-ce que vous êtes satisfaite de cette fréquentation ?
Il faudrait le demander aux 130 000 visiteurs. Eux, ils sont satisfaits. Nous, on est plus que ravis. Oui, complètement, totalement satisfaits. 130 000 environ jusqu'à maintenant. Et on est aux alentours des 3 000 scolaires, qui en tout cas en font partie, mais avec lesquels on travaille sur le fond.
Est-ce que la période des vacances scolaires, c'est une période cruciale pour la fréquentation des musées ?
Oui, je pense. Aussi, pour le musée Picasso, c'est crucial aussi parce que les horaires d'ouverture sont élargis et on ouvre donc à 9h30, ce qui permet effectivement de voir plus longtemps ce musée.
Alors Juliette Giraud, dans la présentation de Muséomix sur le site internet, on entend une voix dire « Nous désirons des musées plus vivants avec lesquels on puisse dialoguer, interagir, bref, les musées de demain ». Est-ce que l'idée de départ, c'était que les dispositifs actuels de médiation ne fonctionnent pas ?
Ça part pas de l'idée que ça fonctionne pas, ça part plutôt de l'idée de l'encourager, de le soutenir, et puis d'inviter les publics aussi à participer à ces questions-là, voilà, que ça soit un peu plus ouvert.
En gros, que la médiation ne soit pas que le fait des professionnels, mais qu'elle émane aussi du public, c'est ça ?
Qu'elle émane du public. Alors, Muséomix, ce n'est pas une solution en soi, hein. C'est vraiment une proposition d'expérience. Donc, on n'a pas d'objectif à atteindre. On n'est pas un événement qui fabrique du dispositif à tout prix. C'est vraiment une expérience d'immersion, de rencontre et de partage. On a envie, on dit souvent qu'on fait du musée ce jour-là un laboratoire. Voilà.
Et l'intérêt pour le musée, c'est quoi ? C'est d'être un petit peu bousculé dans sa pratique ?
Alors, c'est vraiment la rencontre et l'expérience, encore une fois, qui peut tendre derrière vers des changements, mais pas forcément. L'intérêt pour les professionnels des musées, par exemple, c'est d'abord de rencontrer d'autres professionnels qui ont, par exemple, d'autres méthodes de travail, de rencontrer des publics qui ne sont pas forcément habitués et vraiment d'être dans un dialogue et dans un échange avec eux. Et notamment l'idée de faire ensemble les choses pendant ce temps-là, selon ce format un peu accéléré comme ça. Tout ça permet vraiment d'aller à l'essentiel dans la rencontre. On se dit les choses et on expérimente nos pratiques, nos savoir-faire. Voilà. On mélange un peu aussi les casquettes. Un conservateur va être, par exemple, très engagé et très actif dans un domaine qui n'est pas forcément le sien. Il va se mettre aussi à rencontrer un développeur, un codeur. Il va rencontrer des gens qui sont spécialistes des usages du numérique.
Serge Chaumier, l'idée de renouveler les techniques de médiation, est-ce que c'est important ? Après tout, si une collection ne bouge pas, pourquoi faudrait-il renouveler la technique de la médiation ?
Alors, c'est une question complexe parce que, effectivement, ça dépend ce qu'on entend par médiation. La plupart du temps, on a une vision assez pauvre, on peut dire, de la médiation, qui serait de transférer des connaissances ou des contenus à un public qui serait supposé être ignare ou ne pas avoir de connaissances dans le domaine. On peut penser la médiation autrement, qui est plutôt de faire des choses ensemble. Et donc, Muséomix, c'est tout à fait... C'est un type de médiation. C'est-à-dire qu'on n'a pas un expert savant qui s'adresse et qui délivre des contenus, mais on a plutôt l'idée qui était portée dans l'action culturelle, en général, qui était de travailler non pas pour des publics, mais avec des publics. Et donc, voire avec des usagers. Et donc, de construire ensemble les choses. Ce qui veut dire que la médiation n'est pas nécessairement de transmettre de l'information, mais c'est peut-être simplement que les gens puissent exprimer leurs émotions, leur créativité, leurs envies, leurs paroles, la partager, comme on disait tout à l'heure. Et donc, tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre comme étant de la médiation. Et dans ce cas-là... Évidemment, elle s'invente, mais elle s'invente sans arrêt, elle s'invente ensemble, et donc elle ne peut pas être définitive. On ne peut pas se dire qu'elle est idéale et qu'on s'en arrête là, puisque les publics changent, et donc il faut réinventer sans cesse avec eux.
Et est-ce que l'invention de nouvelles techniques de médiation ne va pas dans le sens d'un phénomène que vous décrivez très bien, qui est celui des frontières, qui sont du brouillage des frontières entre ce qu'est un musée et ce qu'est un lieu de divertissement comme le parc d'attractions, puisque c'est vous qui employez ce terme-là, le parc d'attractions. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on brouille encore plus les frontières ?
Alors, oui, peut-être, mais en partant d'une vision du musée qui est peut-être une vision un peu stéréotypée. D'une certaine manière, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les musées, ils sont pluriels. Il y en a des toutes sortes. On a une écologie ou un écosystème des musées qui fait que certains sont plus sérieux, entre guillemets, d'autres sont plus sur un registre de l'émotion, d'autres un registre du ludique, un registre du spectaculaire, etc. Et donc... Là, il y a toute une gamme, on pourrait dire, de propositions. Et effectivement, dans certains cas, on avait travaillé avec des collègues sur un ouvrage qu'on avait appelé Expoland, pour faire ce clin d'œil, justement.
Il y a quand même une connotation négative dans Expoland, vous n'allez pas le nier.
Alors, bon, c'est notre côté, le côté que j'ai un peu provocateur, peut-être, de justement pouvoir de pousser un peu le bouchon pour pouvoir poser un certain nombre de questions. Finalement, la question était effectivement, est-ce qu'on va vers une convergence entre le registre, je dirais, du loisir ou du divertissement et celui qui était auparavant la culture au sens noble et légitime du terme. Finalement, la question peut-être fondamentale derrière, c'est l'évolution de la culture elle-même, hein, de ce, et peut-être de la convergence avec les industries culturelles qui sont justement plus portées à faire du loisir ou du divertissement.
On va y venir. Je vais demander à Tommaso Benelli si un visiteur vous dit un jour, en sortant du musée Picasso, qu'il s'est bien amusé. Est-ce que vous le prendriez comme un compliment ou est-ce que vous reverriez totalement votre stratégie de médiation ?
Je pense que si c'est effectivement le visiteur qui le dit, je suis content. Hein. Je suis content. Après, c'est autre chose si c'est l'institution qui incite à l'amusement. Hein.
Le visiteur peut s'amuser, mais ça ne doit pas être l'intention affichée de l'institution.
Oui, en partie oui. C'est-à-dire ce que j'ai lu dans la phrase de ce visiteur, c'est qu'il a pris du plaisir hein, en s'amusant. Et il a le droit de le faire. Donc je pense qu'en partie, le rôle de l'institution et du musée, a été accompli.
Mais il ne faut pas pour autant mettre en place des outils particuliers visant à l'amusement.
Je me dis, mais peut-être que ce n'est pas la finalité, peut-être que ce n'est pas le rôle du musée d'être amusant. En revanche, peut-être que le jeu, pour prendre une partie de ce mot-là, c'est un moyen pour attirer l'attention auprès de visiteurs qui ont besoin d'entrer en rapport avec l'art, une œuvre, le musée, une institution qui peut être hyper impressionnante quand même de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est peut-être un moyen d'utiliser un langage qui est partagé par tous, que ce soit une réminiscence de l'enfance ou au-delà de ça. Et donc le jeu, entre autres, mais ça peut être autre chose, hein, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un moyen pour rentrer en relation, créer du lien.
Serge Chaumier, à propos du jeu, je vous ai lu, vous avez écrit que le ludisme, c'était aussi quelque part dommageable parce que ça gommait la notion d'effort et que le musée était aussi un endroit où eh bien, il y avait un parcours quelque part à faire pour accéder à l'œuvre et que si tout n'est que jeu, on gomme l'effort nécessaire pour accéder à la culture.
Il y a deux visions, je dirais, de la culture qui s'affrontent. Hein. Il y a une vision qui est celle que portait Hannah Arendt, finalement, qui était le fait qu'il fallait être dans un processus, effectivement, d'effort pour s'approprier de travail, hein, de travail à se cultiver. Et puis, on a une autre vision qui est une vision... D'ailleurs, on pourrait parler de ce qui s'est passé dans le registre de l'éducation, hein, finalement, où on a aussi développé d'autres techniques qui ne sont pas simplement des approches, je dirais, sérieuses, mais de se dire on peut aussi apprendre par d'autres moteurs. Et le jeu en fait partie. Et l'enfant construit aussi des choses qui sont sérieuses, hein, comme son identité au travers du jeu. Et donc le jeu n'est pas une futilité ou n'est pas quelque chose qui nécessairement est à voir comme négatif. Donc on peut aussi apprendre, mais au sens large, hein, par le jeu, comme on peut apprendre par d'autres choses, comme disait Juliette, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des approches qui passent par d'autres canaux, l'émotion, l'expérimentation, hein, sans forcément que ça soit ludique, des mises en situation, des interactions, etc. Et donc le musée a développé toutes ces techniques-là qui, d'une certaine manière, permettent à l'individu de se saisir d'une proposition, de s'approprier et donc de se construire à partir de cela. Et donc le jeu n'est pas à voir comme quelque chose une sorte de démon qui amènerait le musée à être dans une voie qui le conduirait au parc d'attractions nécessairement.
Même si on organise un goûter d'anniversaire au milieu des collections, par exemple.
Mais parce qu'il n'y a plus un bon visiteur. Hein, je pense que c'est aussi, ça renvoie à ça, c'est-à-dire que l'idée de beaucoup de conservateurs encore aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une bonne attitude ou une bonne façon de se comporter au musée. Or, de plus en plus, on passe à des institutions dans lesquelles on reconnaît qu'il y a une pluralité d'usages, que... pour certains, peut-être qu'on va faire un parcours jeu avec des enfants et qu'ils vont du coup être moins impressionnés par les lieux, s'y sentir chez eux. Hein, et donc le vivre de façon plus familière ensuite. Et puis pour d'autres, ça sera de vivre d'autres types d'expériences. Et on n'a plus une seule proposition pour un seul bon visiteur. Je pense que ce qui caractérise peut-être les évolutions aujourd'hui, c'est une multitude de possibles, hein, multitude de publics et multitude d'usages à l'intérieur de l'institution. Donc le jeu en fait partie.
Alors il y a le jeu, il y a un autre phénomène qu'on peut peut-être ranger dans cette tendance vers la spectacularisation du musée, c'est le phénomène des grandes expositions. Je vais vous lire la description que faisait le journal La Croix de l'exposition « L'impressionnisme et la mode » qui a eu lieu au musée d'Orsay en 2012. Fausse pelouse entre des bancs de jardin et des gazouillis d'oiseaux, les tableaux ont beau être remarquables, tout semble se liguer ici pour distraire l'attention du visiteur, comme des attractions de foire. Alors, on a bien compris la vision critique de ce journaliste. Est-ce que vous la partagez, Tommaso Benelli ?
Je crois que le rôle du musée et de l'institution muséale est celle de respecter ses collections, respecter ses œuvres, et respecter son visiteur, donc, et ses visiteurs. Et personnellement, je la partage, c'est-à-dire que l'institution doit pouvoir permettre, favoriser, créer une expérience de visite. Et le sens même de l'institution, bon, je parle d'un musée, hein, sont ses collections. Et donc tout le travail et l'enjeu, c'est de faciliter, favoriser cette appropriation de l'œuvre, faire en sorte de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir rentrer dans l'œuvre. Si on y met des filtres, voilà, je crois que...
Donc la distraction à outrance, oui. C'est quand même un risque.
Oui, je préfère la récréation.
Juliette Giraud, est-ce qu'on vous a déjà fait la critique dans les prototypes qui étaient nés de l'expérience Muséomix, d'en venir à distraire le visiteur des œuvres?
En fait, on n'a pas vraiment d'évaluation en ce sens des dispositifs, puisque c'est vécu comme ce qui est proposé, ce qui est inventé, c'est un outil, mais au service d'un usage et une manière de vivre le musée, de vivre et de le partager. Je crois que ça, c'est important. On se rend compte que dans beaucoup de choses qui sont proposées par ces muséomixeurs qui sont des publics, il y a beaucoup de dispositifs qui permettent une connexion entre visiteurs. Voilà. Du coup, on ne nous a pas vraiment fait ce reproche-là, mais en revanche, il n'y a pas de contrainte. Encore une fois, on ne répond pas à un cahier des charges, donc on est libre et c'est en ce sens que l'expérience est intéressante, c'est cette créativité sans limite.
Et mais est-ce que cette créativité, on peut dire, c'est bien, c'est pas bien, ne fait pas concurrence à la créativité de l'artiste même dont vous êtes censé assurer la médiation entre le public et l'œuvre? Est-ce que toute votre créativité qui est foisonnante autour ne fait pas concurrence?
Les dispositifs qui sont créés, c'est vraiment des outils de médiation.
Par exemple,
on peut inventer un outil numérique qui nous permet, par exemple, d'entendre des histoires qui sortent d'une maquette dans un musée d'archéologie. Ou, par exemple, un dispositif qui nous permet de faire le lien entre les objets qu'on voit à l'intérieur du musée et le quartier dans lequel est le musée, qui est aussi, lui, construit sur un patrimoine antique, des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses qui révèlent vraiment l'imagination. Il y a des gens dans des muséums qui ont envie, un coquillage, ça éveille pas pour eux une science particulière, ça éveille une poésie. Donc, ils imaginent un coquillage qu'on se colle à l'oreille et qui nous raconterait des choses. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, c'est très, très ouvert. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de jugement ou d'évaluation par rapport à l'efficacité de ce dispositif. Et c'est cette expérience qui rend... qui rend l'expérience partageable avec les professionnels du musée, avec les publics et avec d'autres professionnels.
Serge Chaumier, vous voulez réagir?
Oui, je pense que ce que j'entends dans votre question, c'est finalement la définition ou la mission du musée. Hein. Est-ce que le musée est là pour servir d'une certaine manière les œuvres ou les artistes derrière? Ou est-ce qu'il est là pour répondre à ce que peuvent vivre des visiteurs ou des publics hein, et ce qu'ils peuvent partager. Et je crois qu'on est quand même, faut pas se voiler la face, sur ces deux paradigmes qui ne cessent de s'opposer, de se confronter. Je dirais qu'il y a une vision plus traditionnelle du musée que porte souvent quand même les conservateurs, qui est de penser que le musée est là pour servir les œuvres. Bon, et il y a une autre façon d'approcher le musée qui est de dire qu'il a du sens, non pas de capitaliser des œuvres pour en soi, mais pour servir à la société et donc à des gens, à des publics, à des visiteurs. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce que les gens vivent qui est important. C'est pas, et donc c'est ce qu'on leur permet de vivre par les expériences.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Le musée doit-il être amusant ? C'est notre sujet ce soir et on en débat avec Serge Chaumier, sociologue, Juliette Giraud, coordinatrice de l'événement Muséomix et Tommaso Benelli, responsable de la médiation au musée Picasso. Le rôle du musée, donc, vous le disiez Serge Chaumier, c'est de mettre en relation des œuvres et des visiteurs. Est-ce que le rôle du musée, c'est pas aussi tout simplement de survivre financièrement aujourd'hui ? Tommaso Benelli, la fréquentation, l'objectif de la fréquentation, à quel point c'est devenu aussi un impératif et donc l'attractivité, un moyen au service de la fréquentation ? Je ne parle pas forcément du musée Picasso, oui. Mais aussi des autres institutions dans lesquelles vous avez été en tant que professionnel. Voilà, à quel point l'attractivité, c'est aussi devenu une nécessité financière.
C'est indiscutable. On se doit d'être, les musées se doivent d'être attractifs. Ils ont besoin des publics, ils ont besoin des visiteurs, au même titre que, je dirais, esthétiquement, les œuvres ont besoin d'être vues pour exister. Alors, je glisse comme ça de la question financière à une question plus intellectuelle, puisque la question financière, comme je le disais, on peut pas la nier. Néanmoins, la qualité de la proposition de l'institution demeure importante. Donc, on se doit de proposer une expérience de visite et de raccourcir au plus près vraiment la distance entre le visiteur, tout visiteur, et l'œuvre. Hein. Je dis œuvre en général, non pas forcément un tableau de Pablo Picasso.
Dans notre musée, il y aura des jeux mathématiques et je dirais même que c'est un peu un passage obligé et que ce n'est pas là que résidera son originalité. Dans d'autres musées mathématiques de par le monde qui marchent très fort, en Allemagne il y a ceux de Gießen ou Dresden, aux États-Unis celui de New York, ce ne sont quasiment que des jeux, des manipulations, des expériences, des choses ludiques vraiment. Nous en aurons aussi, mais notre particularité viendra du fait que nous aurons aussi des histoires et des expositions et une interaction avec le monde de l'industrie qui donnera ainsi un panorama beaucoup plus complet.
C'était Cédric Villani, le mathématicien, directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris, qui présentait au micro de Céline Leclerc son futur musée des maths, dont l'ouverture est prévue pour 2018. Juliette Giraud, c'est un musée qui n'aura pas besoin d'être muséomixé, qui est déjà très ludique, le musée des maths. Ou est-ce que vous pourriez aussi lui proposer d'être donc muséomixé ? Vous nous rappelez ce que ça veut dire muséomixé ?
C'est le grand mix. C'est, on s'interroge, on se met en situation de s'interroger et d'inventer des réponses, d'inventer de se projeter comme ça dans l'avenir, dans des envies, dans des choses créatives. Est-ce qu'il a pas besoin d'être muséomixé ? Mais tout le monde peut être muséomixé. Le moteur, tout le monde, tous les musées qui le souhaitent, le moteur, c'est l'envie, la curiosité, la rencontre, la bienveillance. Je crois que ça, c'est important. Les muséomixeurs qui ne connaissent pas forcément les musées ont tous une approche, vraiment, ils aiment a priori les musées. Ils ont une estime immense pour les professionnels qui y travaillent. Ils ont une curiosité très grande. Et c'est la même chose pour les professionnels et les musées qui s'y engagent. Je crois que ça, c'est vraiment assez fondamental et ça fait partie de l'état d'esprit de Muséomix.
Alors là, dans un musée des maths, on est dans une discipline scolaire qui s'apprend à l'école. Est-ce que c'est vrai qu'en France, le musée a été pensé dans une complémentarité avec l'école, c'est-à-dire l'école apportant les connaissances et le musée donnant à voir, ce que je vous cite Serge Chaumier, donnant à voir l'exemplarité. Est-ce que ce partage des rôles fonctionne encore aujourd'hui en France ?
Ben, je pense que c'est vraiment le nœud du problème. Finalement, on a une confusion qui s'est instaurée entre ce qui a été longtemps séparé, c'est-à-dire l'instruction et l'éducation. Aujourd'hui, c'est devenu des synonymes. On a du mal à faire le partage entre les deux. La réforme du système scolaire, on est passé du ministère de l'Instruction publique au ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, on s'y retrouve plus très bien dans cette complémentarité entre l'école et le musée. Pendant longtemps, effectivement, on s'instruisait à l'école et on s'éduquait ailleurs, au théâtre, au musée, etc. Et l'éducation n'était pas du tout dans une vocation d'apprendre des choses. C'est pour ça que je dis souvent, le musée, on va pas pour apprendre des choses au musée.
Donc à l'école, on apprenait les codes de compréhension, le contexte d'une œuvre, par
savoirs.
Exemple. Et au musée, on pouvait tout simplement être ému.
Ce que disait Malraux, d'une certaine manière, en disant on va au théâtre pour aimer les œuvres qu'on a découvertes dans les cours à l'école. Et donc, d'une certaine manière, ça veut dire que le musée n'est pas forcément à sa place quand il veut transmettre des informations. Finalement, ça devrait être qu'un effet induit. Et à ce moment-là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens même du lieu. C'est peut-être de justement ce que portait l'éducation, c'est-à-dire de faire advenir la personne en tant que citoyen et en tant que donc personne qui réfléchit ou qui a un retour sur lui-même et une ouverture sur les autres. Et là, on est vraiment dans le sens de l'éducation, ce que portait l'éducation populaire, par exemple.
Oui, mais problème, si aujourd'hui l'école n'assure plus, disons, ce socle de connaissances, de contextualisation. Par exemple, si je suis devant une œuvre, une peinture, qui met en scène un grand mythe fondateur de l'Occident, et que je ne connais pas ce mythe, est-ce que je vais pouvoir apprécier que le personnage en premier plan est mis en lumière, tandis que celui en second plan est sombre parce qu'il incarne quelque chose de dur, etc. Voilà, c'est vraiment un exemple comme ça. Donc si l'école n'apporte plus ce background, comment fait-on ? Il faut bien que le musée prenne le relais. Tommaso Benelli.
Oui. On travaille, donc les musées travaillent avec l'éducation nationale. Il y a une synergie très importante. Il y a, je dirais, presque un concours de compétences. Notamment, il y a des services éducatifs, il y a des chargés de public scolaires. Donc il y a un travail qui est main dans la main entre l'institution et l'éducation. En tout cas, au musée Picasso, en étant vigilant à ne pas superposer les rôles. Nous ne sommes pas des profs et les profs ne sont pas forcément des ingénieurs culturels. Alors, chaque institution, musée et établissement public, enfin école, où le professeur se doit de respecter son rôle et donc de travailler ensemble. Ça se fait dans des projets sur le long terme, mais ça peut se faire aussi tous les jours lors d'une expérience autre qui est l'expérience de visite au musée.
Alors là, on parle des publics scolaires et donc du travail que vous avez avec les professeurs. Mais si on prend l'ensemble des visiteurs, donc aussi les adultes qui sont déjà sortis de l'école, je voudrais juste vous raconter, Tommaso Benelli, ma propre expérience de visite au musée Picasso.
Je vous écoute.
J'avoue avoir été un petit peu perdue. Je cherchais désespérément les thèmes de découpage au fronton des murs blancs. Je cherchais aussi les panneaux, les habituelles informations sur la période, sur le contexte, sur la biographie. Bref, tout ce qu'on ne trouve pas au musée Picasso. Et puis finalement, après aussi avoir échoué à installer l'application sur mon téléphone portable, j'ai fini par lever le nez et me plonger dans les œuvres, dans les sculptures, dans les peintures de Picasso. Et bon, je dois confesser, mais après c'est très personnel, que finalement le fait d'avoir été dérouté n'était pas si mal, ça m'a remis en face de l'œuvre. Mais est-ce que ça ne fonctionne pas parce que c'est Picasso ? C'est-à-dire Picasso quand même, un artiste qui reste quand même populaire, qui est quand même très connu et dont on a tous vu une œuvre en reproduction dans un manuel scolaire. Voilà. Est-ce que ça fonctionne, cette absence d'explication, est-ce que ça ne fonctionne pas parce que c'est une Picasso ?
Ça peut fonctionner parce que c'est Picasso. Néanmoins, Picasso, vous le disiez, il est très populaire, mais enfin, je crois qu'on le regarde souvent avec des lunettes, des idées qui sont positives ou négatives, néanmoins des idées reçues. On n'est pas censé être des connaisseurs de Picasso. En revanche, ce que l'on veut faire avec nos visiteurs et nos publics, c'est que on doit tous pouvoir libérer notre regard. Et donc, on se doit tous cet exercice de liberté qui est inconditionné et qui est la liberté de regarder une œuvre, de s'y perdre. Bon, s'y perdre dans le musée, c'est une autre affaire. Hein. Mais s'y perdre dans l'œuvre est très positif. Je dirais que c'est la seule solution, la seule façon de rentrer dans une œuvre. Donc, c'est ce que l'on souhaite. Et ça va de même avec la liberté que Picasso exprime dans son œuvre.
Et vous pensez que se perdre dans une œuvre, c'est donner à tout le monde ? C'est-à-dire que, quelles que soient ses connaissances, son capital culturel, pour prendre un terme bien bourdieusien, c'est donner à tout le monde de pouvoir recevoir un choc esthétique en se retrouvant devant un tableau de Picasso ?
Je crois que c'est une partie à ne pas négliger, c'est une partie importante, la rencontre entre le regard, et chaque regard est un regard subjectif et personnel, et l'œuvre. En revanche, je crois que l'institution se doit aussi de faire quelque chose de plus autour de cela. Il faut le travailler, il faut pouvoir la travailler aussi, cette rencontre et ce choc esthétique ou ce choc de liberté, d'où l'importance de la médiation.
Juliette Giraud, dans les prototypes qui sont nés de l'expérience Muséomix, l'outil numérique est particulièrement utilisé. Est-ce que, pour rester dans cette idée de démocratisation de l'accès à la culture, est-ce que le numérique, aujourd'hui, c'est un outil particulièrement accessible à tous ?
De fait, ça rentre dans la vie de tous aujourd'hui, on va dire globalement tous. De fait, le changement, il est là, l'outil, il est à la maison, il est à l'école souvent. Donc ça change les choses, ça change notre manière d'être, de nous comporter, d'interagir. On peut voir un Picasso sur l'ordinateur avant d'en avoir vu un en vrai. Donc forcément, le jour où on se retrouve devant un Picasso, on parle beaucoup de Picasso, mais ça peut être une autre œuvre, et ben on n'est pas le même, on ne le rencontre pas de la même manière, idem pour le musée, et puis on n'interagit pas de la même manière. On peut partager avec des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas, par exemple. On peut exprimer une lecture, une représentation d'une œuvre, d'un musée, tout ce qu'on veut, qui n'est pas du tout celle que l'institution veut donner, par exemple. Donc, de fait, ça nous transforme en tant que visiteur. Le visiteur d'aujourd'hui, celui-là qui est né avec cette expérience du numérique, il n'est plus le même que celui qui ne l'a pas eu avant. Et je trouve que les musées... Alors, Muséomix, ça sert aussi à susciter cette rencontre qui n'est pas facile, qui peut créer de l'insécurité aussi pour certains musées, par exemple.
Ce n'est pas toujours évident de rentrer dans une institution, dans un musée, et ça peut être intimidant.
Mm-hmm. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le visiteur et le rôle de la médiation, de préparer le visiteur, je crois, et vous parliez tout à l'heure aussi de l'accueil au musée Picasso, je crois que c'est aussi mettre le visiteur dans une situation de confort presque psychologique et de capacité au saisissement. Après, s'il le saisit, s'il le vit, s'il le reçoit, et même la manière dont il va le recevoir, ça lui appartient, c'est son histoire. Et si déjà il a vécu cette rencontre, comment dire, vous avez peut-être un autre mot, mais coup, je crois que le musée a joué son rôle. Et par contre... Je crois que le travail de la médiation, c'est aussi de garantir la diversité des approches et de considérer la diversité des publics. Certains visiteurs ont besoin qu'on les laisse tranquilles devant une œuvre et ils sont en capacité de curiosité ou de connaissance pour recevoir l'œuvre, et encore telle qu'on pense qu'il faut la recevoir, parce que le musée, il est aussi porteur d'une lecture de l'œuvre. Mais il y a aussi des visiteurs qui ne sont pas capables de ça.
Et alors, justement,
pardon, je voudrais retirer ce mot-là parce que c'est pas capable, mais qui n'ont pas la même...
Compétences,
les
peut-être
mêmes, voilà,
comment vous diriez,
ouais, bagages, ils n'ont pas les mêmes outils, on va dire, voilà, pour aborder une œuvre. Et eux, ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Ils ont besoin peut-être que juste qu'on les rassure, sans forcément qu'on leur dise ce qu'il faut voir ou comprendre de telle ou telle œuvre, mais qu'on les mette dans une situation de confort et de douceur presque, et de voilà, de, je redis ce mot bienveillance, mais et la médiation a de plus en plus cette pour le coup elle acquis avec toutes ces années d'expérience les compétences pour pouvoir adapter et les outils et les discours aux différents visiteurs, et il y a plein de visiteurs.
Voilà. Donc si on résumait, Serge Chaumier, l'essence même de la médiation, c'est de donner les moyens à tous, et quand je dis tous, bien sûr, on parle en termes de classe sociale, c'est quand même ça le fond de la question. Donc, donner les moyens à tous d'accéder aux œuvres, c'est ça une médiation réussie ?
En fait, elle est partie de là, c'est-à-dire que quand ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, dans le choc esthétique, on faisait le pari que c'était l'école qui apportait les codes pour comprendre, pas que l'école, d'ailleurs aussi l'instruction religieuse qu'on avait qui permettait de décrypter les tableaux, etc. Finalement, dans les années 60-70, l'école ne faisant plus forcément ce travail-là, les musées ont pris le relais et ont mis en place tout un ensemble de services de médiation qui apportaient des codes à ceux qui n'en avaient pas, dans un souci de démocratisation, d'élargissement des publics, etc. Je pense qu'on a cette histoire-là. Après, au-delà de ça, la médiation va bien plus loin, puisqu'elle permet, comme disait Juliette, d'autres usages, et pas nécessairement de simplement acquérir des codes qu'on n'a pas, mais peut-être aussi d'accompagner des visiteurs qui ont envie de vivre d'autres types d'expériences qu'un rapport au savoir. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer au musée, on peut aussi venir pour partager, parce que c'est un moment de sociabilité, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est un espace collectif dans lequel on vit des choses ensemble. Et la médiation, c'est aussi un accompagnement de tout ça, c'est pas simplement un rapport au contenu des œuvres, c'est ça que je veux dire.
Serge Chaumier, est-ce que vous êtes en train de dire que le musée doit cesser d'être un temple pour devenir un forum ?
Bien sûr, mais ça on le dit depuis la nouvelle muséologie, depuis les années 70, c'est notre combat.
Vous vouliez réagir, Juliette Giraud.
Mais ça revient un petit peu au même, c'était de dire qu'effectivement, maintenant, c'est aussi la parole du visiteur, son regard qui vient enrichir ce qu'est le musée. Voilà, et ça, c'est un peu nouveau. Et les outils numériques facilitent cela.
En parlant d'outils numériques, Tommaso Benelli, ce qui m'a frappé dans la visite du musée Picasso, c'est qu'on peut utiliser son téléphone portable pour prendre des photos. Et alors c'est vrai que souvent dans les musées, on a plutôt tendance à cacher un petit peu son téléphone. Mmh. Et là, les gens prenaient librement les œuvres en photo. Derrière, il y avait une idée particulière où vous avez juste assoupli un peu la dispositif. Il y a un rapport au numérique particulier derrière cette autorisation ?
Non, c'est une pratique qui a été... On peut le faire. On a été, libéré de ce problème, puisque ça devenait, je crois, aussi un problème. Et donc, ça va avec la liberté dont je parlais tout à l'heure. On peut prendre en photo les œuvres. Bon, c'est un flash, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais ça nous pose toujours la même question. J'ai entendu parler de regard. Et ben, c'est encore une fois une question de regard pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en photo une œuvre de Picasso ? Quel est le regard que l'on pose sur les œuvres ? Donc, et effectivement, la médiation, pour rebondir, je crois que le sens ultime est on travaille autour des œuvres, mais on travaille surtout dans le regard de nos visiteurs. Un éveil de ce regard cognitif, donc la pensée.
Eh bien, merci pour ces mots de conclusion, Tommaso Benelli. Je rappelle que vous êtes responsable du département de la médiation au musée Picasso. Merci à vous, Juliette Giraud. Vous êtes donc coordinatrice de l'événement Muséomix. Et merci beaucoup à vous, Serge Chaumier, sociologue de la culture, responsable du master expographie-muséographie à l'Université d'Artois. Lundi, vous retrouverez Hervé Gardette aux manettes du Grain à Moudre. En attendant, il est 19h sur France Culture, c'est l'heure du rendez-vous. Bonsoir Laurent Goumard.